mémorable, Anton Tchekhov et l'expérience théâtrale avec Antoine Vitez et Claude Régis.
Je crois qu'un nouveau monde a commencé le 25 octobre 1917 et que notre temps, le temps de notre vie, à nous tous, est déterminé par le 25 octobre 1917.
Antoine Vitez.
Je pense aussi parfois que on voit un grand empire dont on se souviendra dans l'histoire et qui a peut-être encore des siècles devant lui à vivre et qui aura commencé ce jour-là. Alors, j'y vois une chose tout à fait différente de la Russie d'antan. Et c'est étrange, ces deux idées cohabitent en moi.
Mais de toute façon, les deux pièces, chacune selon leur mode, nous parlent des problèmes de la création artistique.
Ah oui, ça tout à fait clairement. Je parle d'abord de la seconde pièce, Le Héron. Il y a ces deux scènes où les intellectuels camouflés pour qu'il ne leur arrive pas d'histoire, cachés, déguisés, masqués, camouflé en ramasseur de champignons, l'autre camouflé en ouvrier de la couture. Les intellectuels s'expriment, s'expliquent, et expliquent les raisons de leur camouflage, finalement les raisons de ce qu'ils considèrent eux-mêmes être leur lâcheté, leur silence. Leur lâcheté par rapport à la responsabilité de l'artiste et de l'intellectuel dans le monde, en Union soviétique comme ailleurs. Ils estiment ne pas remplir leur responsabilité par rapport à leur peuple, par rapport à leur histoire, à leur nation. Responsabilité que Aksionov, lui, sans doute, pense assumer, encore qu'ils doivent souffrir de l'assumer en exil. J'éprouve une étrange sensation de parenté entre ces scènes-là, ces scènes avec les intellectuels qui s'appellent d'ailleurs Lyosha, l'un comme l'autre, Lyosha le garde, et Lyosha couture, et Lyosha, rappelez-vous que c'est le prénom du personnage des frères Karamazov, du plus jeune des frères. L'autre d'ailleurs s'appelle, un des autres s'appelle Ivan, qui est également le prénom d'un des personnages du Héron. Donc il y a Ivan et Lyosha, il manque Dimitri. Alors on peut se dire, s'il y a Ivan et Lyosha, Dimitri est peut-être la figure cachée dans le dessin chez Aksionov. Et je crois Aksionov capable de tout, de toutes ces ruses-là. C'est-à-dire que l'œuvre d'Aksionov en général est une œuvre très riche, multiple, où on voit apparaître des personnages cachés, des allégories. Et je disais que je vois une grande parenté entre ces confessions des deux Lyosha et puis les réflexions de Trigorine dans La Mouette sur la création artistique et sur son impossibilité justement de parler d'autre chose que, comme il dit, du paysage.
Oui, il y a sûrement un Dimitri caché, puisque de toute façon, la pièce repose en grande partie sur le chiffre 3, avec les trois sœurs, qui sont aussi bien les trois sœurs de Tchekhov que les trois parcs, que peut-être toute autre chose.
Les trois sœurs de Tchekhov sont déjà les trois parcs et sont déjà les trois vertus cardinales. Pour ce qui est de La Mouette, on reconnaît dans La Mouette à la fois Hamlet, de façon évidente, y compris dans la construction même, puisque la scène qui est au milieu de la pièce, dans La Mouette, c'est la scène de l'horrible règlement de compte entre la mère et le fils, au sujet de l'amant de la mère, considéré comme l'usurpateur, c'est-à-dire très exactement à la même place relativement, la même scène, et d'ailleurs que j'ai montée plus ou moins de la même façon, entre Hamlet et Gertrude, et entre Treplev et Arkadina. Avec un père absent, mort, un père supplanté par l'usurpateur, c'est-à-dire l'écrivain à succès. Et d'ailleurs, l'écrivain à succès, à l'acte 2, Trigorine dit à Nina cette réplique, quand elle dit « on devrait vous transporter sur un char », il dit « sur un char, je suis pas Agamemnon ». Et pourquoi il dit « je ne suis pas Agamemnon » ? C'est qu'en réalité, il est égiste. Je pense qu'il y a chez Tchekhov une grande malice et l'introduction des figures mythologiques d'une manière tout à fait consciente.
Donc vous croyez que Tchekhov était joué de façon trop disons, réaliste, là. Et qu'on n'approchait pas cette atmosphère poétique, ce climat poétique. Il y a un climat poétique.
Je pense qu'on doit le jouer de façon rigoureusement réaliste. On doit veiller énormément à la vraisemblance psychologique des personnages. Sinon, si on ne joue que les allégories, à ce moment-là, on détruit le tissu.
Stanislavski écrit « Parfois, c'était une aide, et je me suis accoutumé à trop user de ces techniques. Écoutez, dit un jour Tchekhov, assez fort pour que je puisse l'entendre, je vais écrire une nouvelle pièce. Elle commencera comme ça. Quel silence merveilleux. On n'entend ni oiseau, ni chien, ni coucou, ni hibou, ni rossignol, ni horloge, ni clochette, et pas le moindre grillon. C'était bien sûr une pierre dans mon jardin. »
Anatoli Efros. Fragment sur la mouette. Il faut des formes nouvelles, il les faut. Si elles n'existent pas, mieux vaut que rien n'existe, dit Treplev. Bien sûr que l'on peut comprendre les mots « nouvelle forme » en tant que formalisme vide. Mais vous en conviendrez avec moi, cela serait trop simple, pour ne pas dire primaire. Même Treplev entendait sous ce terme-là quelque chose de plus essentiel. Et c'est ainsi que moi aussi, j'entends les nouvelles formes. Medvedenko fait la cour, c'est un fait. En même temps, on dirait qu'il propose une discussion de principe sur la capacité de l'homme à être malheureux pour des raisons spirituelles, des raisons de morale.
Brooke a dit ça un jour, et ça me semblait un peu une parole superficielle. Brooke avait dit qu'il y a deux grands inventeurs du théâtre, c'est Shakespeare et Tchekhov. Alors je me disais quand même, c'est un peu vite dit, puis finalement, je pense qu'il a tout à fait raison. Et je crois qu'il y a un système de la dramaturgie tchékovienne qui est une invention, une sorte d'invention vraiment absolue. Et tant que cette invention ne sera pas épuisée, et il y a peu de chances qu'elle soit épuisée d'ici peu, eh bien, on jouera Tchekhov. Et c'est ça, finalement, au moins autant que le contenu des œuvres, qui fait que l'œuvre de Tchekhov est importante.
Oui, mais elle est importante parce qu'elle charrie toute une peinture, une mélancolie, une nostalgie ou une dénonciation. Elle est importante pourquoi ?
Non, elle est importante à mon avis parce que c'est un système d'étude du comportement humain, un système quasi biologique d'étude du comportement humain. C'est-à-dire qu'on voit les conduites humaines se dessiner comme sur un écran. On voit les traces des conduites humaines comme sur une page blanche. Et ça, c'est quelque chose qui était tout à fait nouveau. Ce qui précède immédiatement Tchekhov dans la dramaturgie européenne, c'est-à-dire Ibsen, ne montre pas du tout ça. Ce sont des pièces magnifiques, les pièces d'Ibsen. Mais il n'y a pas cette observation du fonctionnement des conduites humaines et un fonctionnement sur lequel l'auteur lui-même semble ne prendre aucun parti. C'est-à-dire qu'il y a ce regard absolument aigu et cet amusement aussi de l'auteur à regarder le fonctionnement de la vie, les mécanismes de la vie. Donc en ce sens-là, le théâtre, en général, le théâtre justifie bien ce que Piscator disait de lui. Le théâtre est le laboratoire des comportements humains. Et qui dit laboratoire des comportements humains, pour moi, dit à la fois conservatoire des comportements humains et lieu d'élaboration peut-être d'autres comportements. Mais un laboratoire, c'est aussi un lieu d'échantillonnage des comportements humains. Finalement, il y a dans Tchekhov, étrangement, une idée de l'éternité. Je trouve que, beaucoup plus qu'on ne le croit, Tchekhov travaille sur l'essence. Sur l'essence du comportement humain, sur l'universel, sur l'éternité. Alors que On a tellement la sensation qu'il est enraciné dans la terre russe, qu'il décrit la société russe, comme on dit toujours à la fin du 19e siècle, la nostalgie des gens qui sont au bout de leur rouleau social, etc., etc. Moi, je crois que ce qu'il y avait plus profond, je pense que c'est à cela que Brooke faisait allusion.
Eh bien, pour prolonger les réflexions d'Antoine Huitaise, qui vient de monter La Mouette à Chaillot, et qui nous parle de Tchekhov, nous avons autour de ce micro, en direct, Claude Régis qui monte Ivanov, et Georges Banou qui est rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle Chaillot, finalement.
Le journal de Chaillot.
Donc, qui sait de quoi parle Antoine Huitaise, puisqu'il travaille avec lui, et surtout qui est là en tant qu'auteur d'un livre qui vient de sortir, Le théâtre sorti de secours, aux éditions Aubier, et qui, je crois pouvoir dire que c'est un livre remarquable qui m'a beaucoup touché, parce qu'il parle d'un certain nombre de choses à partir de l'actualité du théâtre, qui est un art très mouvant, très éphémère, et effectivement, il a besoin de quelques sorties de secours. Nous y reviendrons. Et vous, Claude Régis, vous êtes là parce que vous êtes le metteur en scène d'Ivanov à la Comédie Française, de Tchekhov, bien sûr. Et tous les deux, d'ailleurs, vous vous retrouvez partout en réfléchissant sur Tchekhov, dans des revues. Nous avons une revue qui s'appelle Théâtre en Europe. Il y a des articles de l'un ou de l'autre. Il y a des articles de Georges Banou de la Comédie Française. Et aussi, il y a d'ailleurs un article de Georges Banou sur Tchekhov, naturellement, dans son livre. Alors, première réflexion à chaud sur ce qu'Antoine Huitaise vient de dire. Je vous ai vu, j'allais dire entendu, hocher la tête à plusieurs reprises quand il a parlé d'éternité, de biologie, etc.
Oui, et il y a deux choses qui me paraissent tout à fait essentielles, avec lesquelles je suis complètement en accord. C'est le côté pratiquement scientifique, le côté biologiste de Tchekhov. C'est-à-dire qu'il y a là l'observation très aiguë, et presque avec l'aide de microscopes ou de moyens d'investigation de la connaissance de l'homme, qui est faite d'une manière complètement froide, vraiment comme un observateur qui observerait la vie des insectes. Et je crois que c'est très important de lire son livre sur Sakhalin, sur les bagnards, où là aussi, tout en dénonçant plein de choses, il ne prend pas vraiment parti. Il rend compte, il observe. Alors, en rendant compte, ce qui est très important dans notre temps, c'est que il rend compte naturellement de la contradiction, c'est-à-dire que ces personnages ne sont jamais porteurs d'un message, qui ne sont jamais simplifiés dans une seule ligne, mais qu'ils ont la totalité de la richesse et de la contradiction d'un être humain. Et la dimension d'éternité, bien sûr, je m'y suis attaché complètement, parce que je pense que, comme beaucoup d'athées, les écrivains touchent effectivement à l'essentiel et vont directement à l'universel et sont donc tout à fait dans un univers spiritualiste automatiquement.
Georges Banou.
Oui, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, on parle très souvent justement de l'objectivité de Tchekhov. Il faut dire que je crois que c'est une lecture actuelle et que ça n'a pas été toujours comme ça. Et que justement, on est intéressé aujourd'hui à cette liberté que Tchekhov laisse au lecteur par cette objectivité. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a lu Tchekhov, au contraire, comme l'annonciateur de la Révolution, comme celui qui prévoyait donc des temps nouveaux, comme à la fois un prisonnier de la science. Donc, il y a eu, à travers le 20e siècle...
Oui, il y a eu même une lecture un peu plus modeste, mais qui était au fond plus directe. On disait que Tchekhov est allé jusqu'au à l'endroit où il pouvait aller, il ne pouvait pas aller plus loin, et c'est Gorky qui avait pris le relais. Ce qui est peut-être un peu rapide comme raccourci et historique et littéraire.
Et justement, ce que dans le texte, je cite Claude Régis, que je trouvais très juste ce qu'il disait dans Le Théâtre en Europe, qu'à la réalité aujourd'hui, je crois qu'on retrouve l'héritage de Tchekhov beaucoup plus dans Botho Strauss ou dans certains auteurs allemands contemporains, ou même dans certaines œuvres de Michel Vinaver, plus que dans Gorky, qui a pris de Tchekhov justement cette image de Tchekhov, un prophète des temps nouveaux.
Et alors, tout à l'heure, Antoine Huitaise évoquait le Tchekhov qu'il ne faut pas, justement, continuer à cultiver, c'est-à-dire qu'au fond, la nostalgie camarade, ça ne l'intéresse pas beaucoup, Claude Régis.
Non, il y a eu, c'est vrai, toute une époque que j'ai bien connue.
Le samovar,
voilà. Et puis surtout la nostalgie, la tristesse, la sensibilité, et une notion que les Français avaient cru découvrir d'une certaine étrangeté de l'âme russe.
Oui, alors on en vient justement à la direction d'acteur. Vous, qui êtes metteur en scène pour ce spectacle, Ivanov, on s'est posé souvent justement la question comment diriger les acteurs. Alors si on ne prend pas l'âme russe, encore une fois, la cheminée qui est en carton d'ailleurs, bon, on en vient peut-être à quelque chose qui est peut-être la simplicité, non ?
Giorgio Strehler. La cerisée. Selon moi, la seule façon de travailler Tchekhov, c'est se laisser guider sur le fil d'une idée centrale, d'une idée critique, qui est intuition poétique par étude sémantique d'un texte où tout est écrit. C'est ce tout est écrit, c'est-à-dire ce monde de paroles, de signes, sans aucune aide pour la mise en scène, qui avait désespéré le vieux Constantin Stanislavski. Et après lui, des générations de metteurs en scène, peut-être plus malheureux que lui parce que liés à trop de leçons critiques, à trop d'études littéraires, à trop de versions des œuvres de Tchekhov, à trop de choses en somme, pour retrouver cette extraordinaire simplicité du texte. Simplicité sur laquelle Tchekhov insiste quand il écrit « Soyez plus léger, plus fluide, plus simple, moins fataliste, moins dramatique. Soyez aussi plus joyeux, comme dans la vie. » Vie transposée, mais vie toujours.
Claude Régis, nous n'allons pas faire un discours sur la méthode Stanislavski, acteur studio, etc. Alors vous, metteur en scène, vous dirigez les comédiens français comment ? Ou qu'est-ce que vous pensez par rapport à Tchekhov, bien sûr ?
Ce qui m'a paru, ça a trait à ce que dit d'ailleurs Strehler, de ne pas être intimidé par tout ce qui a été monté, par toutes les mises en scène qu'on a vues, par tout ce qu'on a lu sur Tchekhov. J'ai essayé d'oublier tout ce que je savais de Tchekhov. J'ai essayé de lire cette pièce que j'ai d'ailleurs retraduite avec Simone Saintz complètement, en faisant un travail d'ailleurs de retour à la première version qu'il avait écrite en 8 jours complètement spontanément à l'âge de 26 ans et qui à mon avis contenait l'essentiel. Et puis en faisant cette lecture, j'ai essayé, une fois l'objet texte étant établi, j'ai essayé de me mettre à l'écoute de ce texte comme si c'était un auteur que je n'aurais jamais lu, que je n'aurais jamais connu. Et que je pense que j'ai essayé, comme toujours, de mettre les acteurs dans cette même disponibilité d'écouter ce qui nous arrivait en lisant la pièce, en commençant à essayer de la faire vivre, et en effet, le plus simplement possible. Et puis voilà, s'il y a quelque chose qui est spécifiquement profondément russe dans Tchekhov, si on le joue à fond, cela doit sortir. Mais si Tchekhov n'était qu'un reporter de folklore russe, il ne serait pas joué dans tous les pays du monde depuis 100 ans.
Ils sont tous au jardin.
Je ne pense à rien. Je ne fais rien. Et je suis fatigué dans mon corps, dans mon âme et dans mon cerveau. Jour et nuit. Ma conscience me fait mal. Je sens que je suis profondément coupable, mais en quoi consiste ma faute ? Je ne comprends pas. Ma femme est malade, je manque d'argent, on me harcèle. Ces ragots, ces bavardages inutiles, cet affreux Borkine. Ma maison m'est devenue insupportable et vivre est pire qu'un supplice. Même la compagnie de ma femme qui m'aime m'est devenue intolérable. Vous êtes mon vieil ami, ne vous fâchez pas de ma sincérité. Je suis venu chez vous pour me distraire, mais je m'ennuie, même chez vous. Et de nouveau, je voudrais être à la maison. Excusez-moi, je vais partir tout de suite, sans bruit.
Nikolaï Alexeïevitch. Je vous comprends. Votre malheur, c'est d'être seul. Il vous faut près de vous quelqu'un qui vous comprenne, quelqu'un que vous aimiez. L'amour seul peut vous faire renaître.
Quelle drôle d'idée. Sachenka, ce serait beau à voir. Un vieil oiseau déplumé s'est lancé à nouveau dans un roman. Dieu me garde de ce malheur. Non. Trop ingénieux enfant, pas de roman. Je vous le dis. Comme je le dirais devant Dieu. Je supporterai tout. L'angoisse, la folie, la misère, perdre ma femme, la vieillesse prématurée, la solitude. Mais je ne supporterai pas. Je ne tolérerai pas de me sentir ridicule à mes propres yeux.
Nikolaï Alexeïevitch, Partons pour l'Amérique.
Moi, à l'idée d'aller jusqu'à cette porte, la paresse m'écrase. Et vous, l'Amérique. En effet, Sachenka, pour vous, ici, c'est difficile, la vie. Quand je regarde les gens qui vous entourent, je suis pris de peur. Qui allez-vous épouser? Le seul espoir, c'est qu'un lieutenant ou un étudiant de passage vous enlève et vous emporte. Excusez-moi, Sachenka. Je vous rejoins.
C'est superbe. Roland Bertin, Christine Muriot, c'est un extrait qui a été pris au Théâtre Français. Georges Banou.
Oui, je voulais dire par rapport à Claude Régis, c'est, ce qui me semble assez intéressant, c'est de voir dans tes réactions le fait que Tchekhov est vraiment devenu un classique et que tout metteur en scène aujourd'hui essaie de retrouver un ton qui est forcément libre par rapport à un ton qui lui précède.
Soi-disant tchékovien.
Soi-disant tchékovien. Donc, il me semble assez intéressant de voir que le plaisir du spectacle tchékovien vient aujourd'hui aussi bien de l'œuvre que de la découverte d'un nouveau ton.
Oui, c'est certain. D'ailleurs,
tonalité plutôt.
Je veux dire, il y a deux phrases qui me reviennent tout le temps quand je travaille sur la chute d'Ivanov, sur l'état de chute d'Ivanov, qui est tellement profonde qu'on a l'impression qu'en arrivant à l'extrême de la chute, cette chute devient ascensionnelle, en fait. Et c'est cette phrase, donc, de Botostros, que je cite souvent, qu'il a écrit à propos de son héros de Raffu, c'est-à-dire « la force d'un homme se mesure à la grandeur de sa chute ». Et une autre phrase de Maurice Blanchot que je trouve en plus complètement magnifique dans sa formulation et qui est le meilleur résumé d'Ivanov, c'est le désastre obscur qui porte la lumière. Voilà deux auteurs complètement contemporains et il semble que qu'Ivanov parle de ça dans ce ton-là.
Mais en même temps, ce que je trouve assez intéressant dans Tchekhov, c'est que l'œuvre de Tchekhov, et plutôt que c'est cela qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est que dans l'œuvre de Tchekhov, il y a beaucoup de sauveurs, beaucoup de personnages qui, d'une manière ou d'une autre, même dans Ivanov, il y a Borkine qui propose une manière de sauver économiquement Ivanov. Il y a de l'autre côté Sacha qui lui propose d'aller à l'Amérique.
Non, attention, ces sauveurs sont des naufrageurs.
Mais justement, ce qui me semble assez intéressant, c'est que dans l'œuvre de Tchekhov, il y a perpétuellement cette rupture entre celui qui se présente comme un sauveur et la dénégation tout de suite de cette idée de sauvetage qui échoue régulièrement. Et il me semble qu'il y avait cette très belle phrase dans Ivanov, c'est que on propose une idée gigantesque, aller en Amérique, tandis que Ivanov, ce que demandent ces personnages, c'est des gestes petits, les gestes minuscules à la limite. Les seuls gestes qui, je crois, puissent sauver dans la vision de Tchekhov. Et dans une très belle lettre, Tchekhov disait « Le bonheur ne peut durer que le temps de remonter la montre. » Donc tout ce qui est frappé de gigantisme est, je crois, suspect.
Absolument, c'est-à-dire par là qu'il est le premier grand auteur contemporain.
Vous savez qu'à propos de cette montre, avec Claude Régis et Georges Banou, je pense à une phrase que je trouve magnifique de Julien Benda, qui est donc un philosophe français d'entre les deux guerres, essentiellement, et qui disait qu'il fallait être toujours optimiste, parce qu'une montre arrêtée donne quand même deux fois par jour l'heure exacte.
Giorgio Strehler, La Cerisée. Le temps de la cerisée correspond donc mystérieusement à un temps réel, et comme tel, il ne doit pas être artificiel. Le rythme du dernier acte semble assez soutenu, mais il ménage son espace de silence. Il faudrait vérifier le rythme de la diction russe et le rythme des acteurs. Il ne pouvait pas ne pas être lent, à cause de l'habitude. D'où, certainement, la double indication « vaudeville », signifiant non larmoyant, ni grave, ni lent à la russe. C'est tout comme l'indication « rire dans les larmes ». Tchekhov voulait seulement dire que tel était l'état d'âme intérieur du personnage. Il ne voulait pas dire « il pleure ». C'est une façon conventionnelle de s'exprimer. Que de malentendus sur cette façon conventionnelle de s'exprimer. Certes, quand Tchekhov écrit qu'il est en train de préparer une nouvelle pièce tout à fait comique, et que c'est La Cerisée, on peut se demander ce qui lui passait par la tête à ce moment-là.
Est-ce que ce retour intensif à Tchekhov, en France en tout cas, s'explique par un, peut-être à la fois un désenchantement à l'égard d'un théâtre matérialiste, puisque dans les années 50, on avait d'un côté le théâtre brechtien, et puis de l'autre côté d'ailleurs, le théâtre tragique Beckett. Alors actuellement, on assiste à un énormément de mise en scène de textes de Beckett, de Tchekhov, un peu moins de Brecht. Georges Banneau, vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, qui est une, plus qu'une sortie de secours, ce serait une planche de salut.
Oui, moi je crois que vraiment après Brecht, Tchekhov a remplacé en quelque sorte cet auteur phare des années 50-60, et que en réalité Tchekhov correspond à une sortie de secours pour un théâtre qui veut revenir d'une certaine manière au texte, et un texte qui retrouve sa liberté initiale. Et d'ailleurs je crois personnellement que au XXe siècle on peut retrouver cette grande triade, bien que ça puisse paraître un peu trop dialectique dans le mauvais sens du terme, à savoir Tchekhov, Brecht et Beckett. Et le siècle est balisé par ces trois grandes possibilités.
Ça, dans votre lecture, parce que certains ajouteront « et Claudel ». Et quant à Claude Régine, n'a jamais monté Brecht, si ma mémoire est bonne.
Non.
Ni Beckett.
Non. Je n'ai pas monté Beckett parce que quand j'étais jeune, tout le monde le montait. C'était vraiment la tarte à la crème.
Et maintenant, vous êtes toujours aussi jeune.
Maintenant, Brecht, non, parce que je partage là-dessus l'idée de Handke, c'est-à-dire que c'est une période qui a été sans doute nécessaire, mais où les fables de Brecht sont quand même trop simplifiées, trop univoque pour rendre compte de l'humanité, alors que justement, il me semble que Tchekhov remplit totalement cette mission.
Alors,
et j'ajoute pour dire que ce n'est pas seulement en France que ce retour à Tchekhov, c'est dans le monde entier, et qu'il y a les trois sœurs de Stein, qu'il y a la cerisée de Kargelangov, que je crois que c'est un mouvement qui envahit en tout cas complètement l'Europe, et qui correspond à cette crise.
Mais en même temps, le retour à Tchekhov, je ne crois pas que ça soit absolument indiqué.
Innocent.
Que innocent,
voilà.
Et je crois qu'il parle d'un nouveau modèle, à savoir cette écriture à la fois ancienne, donc en quelque sorte classique et libre.
Est-ce que c'est le temps mort pour la réflexion des hommes de théâtre français, un temps de repos, une angoisse, ça traduit une fuite, un désarroi?
Il ne faut pas exagérer, on ne fait pas que monter Tchekhov, je veux dire.
Oui, enfin, quand vous montez Botoschrost, vous ne pouvez pas me dire que c'est la joie.
Je crois que c'est la joie de notre époque.
C'était mémorable, Anton Tchekhov et l'expérience théâtrale.